Allô? Hey, ça fait un an, ça fait longtemps. Puis, l'autre jour, je suis allé faire un tour après plusieurs mois pour voir comment en étaient mes statistiques de download de podcasts. Et j'ai été surpris, j'ai été grandement surpris parce que malgré mon inactivité, je me retrouve avec plus de 2000 downloads par mois, ce qui est absolument phénoménal. En même temps, je me suis posé la question à savoir si, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, si, en quelque sorte, on recommence à zéro. C'est sûr qu'au niveau des downloads, ça continue. Il y a toujours une certaine activité, mais c'est clair que j'ai perdu des plumes. J'ai perdu probablement beaucoup d'auditeurs au fil du temps. Il y a probablement beaucoup de gens qui se sont désabonnés, qui ont perdu espoir que j'allais revenir un jour. Et aussi que depuis un an, ben, le monde du podcasting a évolué. Les plateformes se sont multipliées. Ça s'est fragmenté. En même temps, les gens, dans leur esprit, c'est plus aussi restrictif qu'avant. Le podcasting, c'est plus confiné à une seule application. Et quel impact ça aura sur ma production de podcast? J'en ai aucune idée. Mais si le podcasting est comme la bicyclette, ben, je vais m'y remettre assez rapidement. Mon nom est Sylvain Grandmaison. Vous écoutez Le Québec en balado-diffusion. As you wander out, people on the street, all around you hear the shuffling of feet. I've been clocking in, and I've been clocking out, and I'm counting steps from the station to your house. Vous attendiez jamais à ce que je vous mette une chanson avec un genre de solo de clarinette en plein milieu. Bonjour, ça s'appelle 5 O'Clock High de Kinematic. J'ai trouvé ça sur Jamendo. Pour poursuivre un peu dans la veine que j'étais tout à l'heure quand je vous parlais de mon retour après une si longue absence, je recommence à faire du podcasting, mais on dirait pas dans le même esprit qu'avant, avec plus de détachement. ça s'explique probablement par mon absence prolongée, mais par aussi le fait que j'ai pas d'attente face au podcasting. J'ai pas aussi de désir de faire quoi que ce soit de magique, de performance. Auparavant, j'avais un souci de performance qui était là. Je voulais être bon, je voulais que ça ait de l'impact, que ça soit sharp, le montage soit impeccable. Maintenant, c'est un peu disparu, ça. On dirait que ma pause a fait en sorte que ça a libéré mon esprit. Puis, j'avais pas peur, mais j'avais une certaine appréhension comme quoi que quand on commence à faire du podcasting au début, on est intimidé par le micro. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment se placer, comment discuter, comment occuper les silences. Puis là, on dirait que ben c'est pas là, c'est pas revenu. je l'avais perdu au fil du temps, comment je pourrais dire, ce edge-là, cette crainte du micro. Puis c'est pas revenu. Bref, vous me voyez comme un podcaster en ce moment, ou vous m'entendez comme un podcaster qui fait un comeback très content, très dégagé. Puis voilà, ben j'espère que ça durera. Je le souhaite. Donc, on va commencer. Vous écoutez actuellement, c'est mon 87e podcast. J'ai commencé en 2006, donc ça va faire 12 ans quand même. Et je vais atteindre très bientôt les 250 000 téléchargements en carrière. Donc, j'ai toujours plus de 2000 téléchargements par mois sans rien faire. Et je me suis dit tout simplement, je ne peux pas laisser mourir cette émission. Et c'est pourquoi que vous m'entendez en ce moment. Hein, oui, avec mon retour, je ne pouvais pas passer à côté. Accompagner ça d'un carburant de la semaine. Bien sûr, c'est une New England IPA de Farnham Ale and Lager. Ben en fait, c'est de South Burlington. Pour ceux qui suivent un peu la scène brassicole, Farnham Ale and Lager, c'est une brasserie québécoise à Farnham qui font des bières pas exceptionnelles, pas de trucs vieillis en fût de bourbon, puis avec des levures sauvages, puis des affaires de même, mais des trucs bien faits. C'est le genre de brasserie dont j'achète les produits quand je veux avoir quelque chose de pas trop cher, de bonne qualité, impeccable, des bières de soif. Donc je me tourne, c'est une des deux, trois brasseries que je me tourne vers lorsque je ressens de la soif, plus que le désir de découvrir quelque chose hors du commun. Par contre, ils font des séries limitées, puis ça, c'en est une pour l'instant. J'espère qu'elle perdurera dans le temps. Avec leur expansion, ils ont ouvert une brasserie à South Burlington. Ils jouent aussi avec tout le hype qu'il y a autour des bières du Vermont, autour justement des New England IPA. Faut dire que la scène brassicole a beaucoup changé au Québec depuis à peu près 2, 3, 4 ans. C'est hallucinant, là. Justement, on parlait très peu d'IPA il y a 4, 5 ans. Maintenant, je veux dire, tout le monde n'a que ça dans la bouche, de la IPA. C'est vraiment très dynamique. Et aussi, dans la tête des gens, la IPA, c'est plus ce que c'était. Si on prend les attentes des gens aujourd'hui face à une IPA, les gens veulent des trucs hyper fruités, un peu dans cet esprit-là. Contrairement à il y a 2-3 ans, où est-ce que les IPA, c'était plus des West Coast IPA, des trucs très amers, un peu fruités, mais qui avaient aussi beaucoup, beaucoup d'arômes de pain, des trucs de pain, pas de pain que l'on mange, mais de l'arbre, de conifères. Donc, précédemment, avant ça, les IPA traditionnellement, c'était des IPA anglaises, donc qui avaient complètement d'autres saveurs aussi. Je vais la déboucher, je vais arrêter d'en parler. Les canettes en édition limitée de Farnham Ale & Lager sont très jolies. Il y a des illustrations dessus. Le branding est très bien fait. C'est fait par la compagnie LG2 à Montréal. Donc, je vais déboucher ça. C'est en canette. Oh, et juste à popper la canette, ça sent déjà extrêmement bon. Je verse ça. Oh, ça sent très bon. Et je regarde la couleur, c'est drôle, on dirait, c'est comme s'il avait inversé l'habillage des bières, en fait. Cette New England IPA-là a l'apparence, est pas si opaque que ça, est assez rousse quand même. Et l'autre, qui était supposément une double IPA, avait totalement l'apparence d'une New England IPA. Donc, je vais y goûter. Ah oui, je pense qu'ils ont interverti les étiquettes. j'ai goûté l'autre, j'ai acheté les deux produits spéciaux. Donc, c'était une double ou une Imperial IPA. Donc, je crois que c'est celle-là que j'ai en bouche en ce moment. Donc, qui est plus dans l'esprit traditionnel des IPA de la côte ouest américaine. Donc, un goût un peu plus résineux, légèrement fruité. Et l'amertume n'est pas si présente que ça. C'est surprenant. Il y a quand même du sucre résiduel. Pas mal. L'autre que j'ai goûté, justement, qui était une New England IPA, ça a l'apparence du jus d'orange. C'est vraiment chouette. les gens pensent au début, la première fois qu'ils voient ça, que c'est un défaut. Et non, c'est voulu. On fait des bières dans lesquelles il y a de la levure encore en suspension. Qu'est-ce qui cause l'opacité? Ce look-là de jus de fruits, de jus d'orange, c'est la levure en suspension, c'est les protéines. C'est justement le fait qu'elle est non filtrée. Le type de grain aussi utilisé, ça a une influence sur l'opacité. Donc, si on met un peu de blé à l'intérieur, donc ça va rester un petit peu plus opaque. Il y a aussi les houblons. Donc, les huiles des houblons causent aussi cet aspect trouble-là. Et moi, je vous recommande d'aller essayer des New England IPA. C'est extrêmement populaire en ce moment. Et en plus de ça, c'est extrêmement bon. J'ai eu peu d'activités comme podcaster en 2017. Pourquoi? Le travail a pris beaucoup de place. La famille a pris beaucoup de place. Puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait face à mes obligations et j'ai mis de côté tout ce qui était un peu, pas tout, mais plusieurs hobbies, comme le podcasting. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à un seul événement l'année passée. C'était le 10e anniversaire de Podcasters Across Borders. C'est un événement qui a eu 7 éditions, qui avait commencé en 2006, justement, à Kingston, en Ontario. Et là, suite au décès de Bob Goyetch, mon chum, en 2016, à l'automne 2016, ils ont décidé de marquer le coup, de faire un événement anniversaire, puis en même temps, pour souligner le décès de Bob. Et pour se revoir toute la gang de cet événement-là une dernière fois. Donc, c'était à Kingston, c'était au mois de mai. C'était une ambiance à la fois triste parce que notre ami Bob n'était pas là pour la première fois, mais en même temps, une ambiance survoltée avec ce groupe-là de podcasters. Sinon, j'ai utilisé le micro une seule fois parce que j'ai été invité sur le podcast d'un de mes amis, de Toronto qui s'appelle John Meadows, un type qui est né à Montréal. anglophone, bien sûr. Pourquoi? J'ai parlé avec lui de photographie argentique, c'est-à-dire la photo faite avec du film. Il faut savoir que j'ai jamais arrêté de prendre des photos avec du film. J'ai actuellement, mon Dieu, combien? quelques appareils photo argentiques, quelques appareils 35 mm deux appareils 2 1/4, dont un appareil Olga. Et il y a aussi que moi, j'enseigne la photo et à l'intérieur du cours de photo, il y a la réalisation d'un projet en photo argentique avec du film par mes étudiants de cégep. Donc, c'est ce que voulait discuter John. Ben oui, c'est mon usage de l'argentique, mais aussi comment enseigner l'argentique à des gens qui ont jamais touché à du film. Sur une classe de 25, souvent, il y a rarement plus que un ou deux étudiants qui ont tenu du film dans leurs mains auparavant. Donc, c'est assez fascinant. Et puis, je peux vous mettre un lien dans les notes de l'émission si vous voulez aller écouter ça. Par contre, si j'ai pas participé à beaucoup d'événements, si j'ai pas enregistré énormément, j'ai prodigué beaucoup de conseils à des podcasters et à des entreprises et à des gens d'entreprise. Donc, quand même, ça a fait partie de mes activités professionnelles que de conseiller des gens au niveau du podcasting. Je vous remets une autre chanson, ça s'appelle Black and White d'un groupe qui s'appelle Arrow and Olive et on se reparle tout de suite après. Et ça aussi, ça a été trouvé sur Jamendo, cette chanson-là. Donc, je vais vous mettre des liens dans les notes de l'émission sur mon site web quebecbalado.com. Donc, je vais vous parler un peu d'événements de podcasting, en fait un seul, qui s'en vient à grands pas le mois prochain à Toronto. Bien sûr, c'est le célèbre, le classique PodCamp Toronto. Je l'ai évité l'an passé parce que, ben justement, Bob et moi, à peu près trois mois auparavant, avant qu'il décède, on s'était dit qu'on y retournerait tout ça ensemble. Et puis, ben j'étais pas dans le mood, tout simplement. Puis cette année, ben ça me tente. Donc, probablement que je vais y aller s'il y en a que ça intéresse. Moi, je vais probablement, comme d'habitude, prendre le train pour aller là-bas et coucher au Bond Place Hotel, qui est un peu l'hôtel non officiel des podcasters lors de PodCamp Toronto. Donc, c'est quand même assez cool. Et puis, ça se passe toujours à l'Université Ryerson de Toronto. C'est les 23, 24 et 25 février. Donc, si ça vous intéresse, venez faire un tour, inscrivez-vous. Ça va me faire plaisir de vous voir là. Oui, je vais vous parler d'outils de podcasting aussi. Il y a Apple qui a annoncé son outil de statistiques qui va nous permettre d'avoir plus de détails sur les habitudes d'écoute des gens, à savoir quand les gens arrêtent d'écouter notre épisode, par exemple. Donc, ça peut être un bon indicateur de quoi faire pour changer notre podcast pour que ça soit plus dynamique. Moi, pour le Québec en balado, j'y ai pas accès. Pourquoi? Ben parce que ça fait trop longtemps que mon fil RSS est inscrit à iTunes. Je suis un peu comme en mode legacy, c'est-à-dire j'ai pas accès aux nouvelles fonctions. Honnêtement, je me branche à iTunes avec mon identifiant avec lequel j'ai soumis mon podcast il y a de ça, près de 12 ans. Et puis, je le vois même pas. Il est même pas listé. Pourtant, j'ai inscrit un autre fil RSS par la suite. Ça, je vois ça sans problème. Mais Québec Balado, non. Donc, surveillez ça. C'est très pratique. Et c'était le temps que iTunes fasse ça. Pourquoi, à mon avis, ils ont décidé de le faire? Bien, c'est justement, ils sont en perte de vitesse. C'est plus la seule application que les gens se servent pour écouter des podcasts. Donc, ils se sont dit, on va faire ça pour essayer de garder les gens. Donc, oui, jetez un œil à ça. Il y a aussi Podcast Mirror. C'est une alternative à FeedBurner qui a été bâti par Blueberry. C'est quoi FeedBurner? En fait, c'est un outil de normalisation des flux RSS. Donc, on passe ça à la moulinette. On met notre adresse de fil RSS originale dans cet outil-là et ça le normalise. Ça évite les bugs. Ça le vérifie aussi en même temps. Donc, moi, je me sers toujours de FeedBurner pour ça. Pourquoi bâtir une alternative à FeedBurner en 2018? Bien, la raison est simple, c'est parce que FeedBurner n'est plus supporté par Google. Donc, ça existe, c'est toujours là, mais vous n'aurez pas de support de la part de Google et aussi, il n'y aura plus jamais de développement. Et ça fait longtemps, j'en ai déjà parlé il y a longtemps à l'émission. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Aussi, évidemment, ça leur permet de nous vendre des statistiques Blueberry. ceci dit, Blueberry, c'est aussi eux qui font le plugin pour WordPress pour pouvoir faire du podcasting, qui font PowerPress. Donc, moi, je leur fais confiance. Puis, étant donné qu'ils sont bien établis et ça fait longtemps qu'ils existent, c'est probablement sûr que ça va durer encore longtemps. Il y a des choses qui ont attiré mon attention dans la webosphère et dans la podosphère en 2017 et je voulais vous en parler des petites choses qui sont intéressantes, qui ont marqué l'univers québécois du podcasting ou de la vidéo. Donc, je commence tout de suite avec ça. La première chose, c'est la catégorie podcast aux oliviers. Donc, c'est plus une catégorie hybride avec le web. C'est vraiment une catégorie dédiée et je pense qu'avec le succès de certains podcasts qu'on a vus, plusieurs humoristes sont en train de s'y mettre d'ailleurs. Donc, je félicite d'ailleurs Trois Bières et leur nomination aux Oliviers dans cette catégorie-là. Et bien sûr, c'est Mike Ward qui a gagné aux Oliviers. J'en profite encore une fois pour saluer Yann Thériault et le féliciter pour son travail là-dessus. Il fait un travail vraiment remarquable. Lors de l'enregistrement, c'est vraiment l'homme à tout faire. il enregistre, oui, en audio, mais en vidéo aussi avec quelques caméras. Et avec, tu sais, tout seul, ce qu'il réussit à faire avec ça, c'est vraiment chouette. Donc, félicitations, Yann. Parlant de Yann, il y a aussi le vlog de Yann Thériault, qui est vraiment quelque chose d'intéressant qui s'est passé sur le web en 2017. Moi, je vous dis, il a peut-être commencé aussi en 2016, je ne m'en rappelle plus, mais si vous n'avez jamais vu un de ses vlogs, allez faire un tour. C'est vraiment, vraiment quelque chose de visuellement riche. Il fait des time-lapse, premièrement. Il fait aussi des recommandations de séries Netflix. C'est très différent de ce qu'il fait dans son podcast. Yann, c'est un gars d'image, c'est un gars de montage vidéo à la base. Donc, c'est sûr que visuellement, c'est très bien réussi. Autre chose qui a attiré mon attention, c'est que Laurent Lassalle et Guiz de Pessemier de l'émission Le jeu, c'est sérieux sur YouTube, ils ont participé à Joke de papa avec les membres de la distribution de Stranger Things. Je sais pas, vous avez probablement vu ça. Vous avez assurément vu Joke de papa. Ils ont été invités à faire un joke de papa avec une partie de la distribution de Stranger Things à Paris à l'invitation de Netflix Canada. Donc, chapeau les gars, c'est vraiment cool. Puis, ça montre aussi la portée des médias sociaux, des médias indépendants. Je veux dire, il n'y a personne des médias traditionnels au Canada qui a été invité à faire ce genre de choses-là. Et c'est Laurent et Guiz qui l'ont fait. Une autre chose dans le domaine du podcasting, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais Patrick Béja, qui est un podcasteur français, et il a écrit un long texte sur Medium pour parler de son expérience, qu'il est le seul podcasteur professionnel en France. C'est un petit peu moins vrai ou ça s'en vient de moins en moins vrai parce que il y a des startups de podcasting qui démarrent et il y en a certains qui sont en train d'atteindre la rentabilité. Mais il faut dire que Béja, lui, ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Ça fait plusieurs années qu'il gagne sa vie avec ça. Comment il a réussi à faire? C'est simple. Il faut avoir déjà une bonne notoriété si on veut attirer des commanditaires, de la publicité, tout ça. Donc, il explique dans le texte comment il fait, d'où il tire ses revenus. Quand on lit correctement, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement à la portée de tous, mais c'est un très bel exemple à suivre. Autre nouvelle de podcasting, il y a Radio-Canada qui offre de plus en plus de contenu en balado. Ils ont un peu ravivé l'adresse, l'URL qui était radio-canada.ca/balado, sauf que cette fois-ci, c'est balado avec un S. On peut partager sur Facebook et Twitter lorsqu'on est dans l'interface sur le web, mais on peut aussi télécharger ou écouter l'épisode, mais seulement à l'intérieur de leur interface. Si on est là, il n'y a pas de lien pour s'abonner, il n'y a pas de lien vers un fil RSS. C'est comme si c'est une bête à deux, trois têtes, où est-ce que leur interface visuelle, leur interface web a une vie en soi, puis ils veulent nous garder captifs là, mais ils distribuent quand même dans iTunes et les autres podcatchers pour ceux qui préfèrent comme ça. Donc, c'est une solution qui est un peu hybride, qui est un peu weird. Je veux dire, ça leur enlève rien si ils mettent un lien vers un fil RSS ou pour s'abonner sur iTunes. Puis au contraire, les gens vont rester abonnés. Puis c'est ça le problème de leur interface. Ils essaient de créer une interface, créer un logiciel pour nous garder captifs, alors que les gens ont déjà des habitudes d'écoute de podcasting ailleurs. Donc c'est à eux à s'adapter. Puis je pense que Radio-Canada fait beaucoup d'efforts pour créer du contenu original. Je leur lève mon chapeau. En même temps, je pense que les dirigeants n'ont pas encore compris comment ça marchait le podcasting. Fuck, c'est le temps qu'ils se réveillent. Ça fait quasiment 15 ans. Allô? Autre nouvelle de dernière minute au niveau du podcasting. Il y a l'émission Le Big Four qui a commencé. Je pense que c'est même cette semaine. Moi, je l'ai écouté cette semaine, en tout cas, lorsque Mike Tremblay l'a annoncé. Je pense que c'est l'initiative, justement, de Mike Tremblay, où est-ce qu'il voulait faire un podcast d'opinion, mais pas tout seul. Parce que c'est assez dur d'animer une émission tout seul, puis faire ce que Mike fait, booker des entrevues. Il tient ça à bout de bras. Il s'investit à fond, puis c'est vraiment un gars passionné. Et puis, ben, je pense qu'il y avait le goût d'interagir un peu plus avec d'autres gens, puis d'autres gens qui ont des opinions, qui font du podcasting d'opinion déjà à la base. Donc, c'est qui le Big Four? C'est justement Mike Tremblay du Supermatozoïde, c'est Yann Thériault du Stream, c'est Dan Massicotte de En Direct de Nulle Part ou EDDNP pour les gens qui sont habitués, et Frank Paquette du Crachoir. Donc, des podcasters chevronnés, certains que ça fait évidemment plus longtemps, comme Yann, ça fait quand même assez longtemps. Quand même aussi, Mike, ça fait quand même quelques années qu'il roule sa bosse avec son podcast. Donc, des gars qui ont des opinions. Dans l'épisode que j'ai écouté, étant donné, bon, j'écoute les shows de ces gars-là. C'est sûr que quand je les ai entendus discuter, ben j'ai retrouvé mes repères tout de suite, de un. De deux, ben c'est sûr que des fois, il y a certains arguments que j'avais déjà entendus sur leur show ailleurs. J'imagine que ça va se placer un peu avec le temps. Mais déjà, il y a une bonne chimie, il y a une bonne dynamique entre les quatre. Puis c'est le fun à écouter. Le seul bémol, c'est un petit peu long. Quand même, 2h30 de show, c'est assez costaud, mais vous n'allez pas vous ennuyer si vous écoutez ça. Je vous mets une chanson, hein, ça fait déjà 33 minutes que vous m'entendez parler. Ça s'appelle New Life de Explosive Ear Candy, toujours trouvé sur Jamendo. Sunshine kissing my face. You know what they say, you need to have darkness in order to see the light. And love is a strange little creature. You chase her and miss her till one day you find her waiting there by your side. This is my time. Feels different. I can't quite explain it, and maybe I shouldn't, 'cause some things can't be explained. The world is a huge empty canvas, and I have the colors to paint me the future that I always had in mind.
This is my time. The start of a new life. It's finally my turn to catch a shooting star. This is my side. The start of my good times. The bad times are over and nothing can go wrong. 'Cause this is
Hey, oui, c'était New Life de Explosive Ear Candy. Comme à chaque année, j'aime vous parler de mes coups de cœur au niveau podcasting et aussi mes tendances podcasting et mes prévisions. Donc, je vais y aller sans plus tarder avec mes coups de cœur de 2017. Le premier, Les Imperturbables. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Allez écouter ça. Ça parle de parentalité, ben de paternité. Ils ont des invités, tout ça, des belles entrevues. Il y a quelqu'un que je connais qui, justement, a perdu son enfant à la naissance. De manière tragique, qui est allé parler là. C'est un peu comme ça aussi que je les avais découverts. Donc, allez écouter ça, c'est vraiment super intéressant. Sinon, il y a un podcast qui est un peu plus, je dirais, commercial. Disparu de Stéphane Berthomé. Stéphane, que je connais depuis plusieurs années. On s'est rencontrés dans un café par hasard alors que il était à cette époque-là moins présent sur le web ou plus présent en France qu'au Québec sur le web. Policier, ancien policier, écrivain. Il a travaillé aussi dans le domaine de l'édition comme éditeur. Puis, justement, il a commenté beaucoup d'affaires policières à la télé. Et à la radio. Puis son nouveau dada, c'est justement de faire du podcasting avec un réalisateur à Radio-Canada. Disparu, c'est quoi? La première saison, ça relate l'histoire d'une noyée, d'une femme qui a disparu. Puis on essaie de faire le lien entre le corps qui a été trouvé et cette femme-là qui est morte. C'est vraiment très, comment je pourrais dire, ça nous garde en haleine. C'est vraiment dans la lignée des podcasts d'enquête. Oui, c'est sûr qu'on pourrait nommer Serial, entre autres. Mais moi, je trouve que ça a plus de parenté avec certains podcasts faits par la CBC. Donc, allez écouter ça. Puis, il y a une deuxième partie qui s'en vient. Je pense que c'est à la fin du mois de janvier, justement. Le seul bémol que j'ai par rapport à ça, c'est la stratégie de diffusion de Radio-Canada. En fait, il y avait entre les mains, selon moi, un podcast et quelque chose pour créer l'engouement, pour créer l'événement. Puis, ils l'ont un peu brûlé en le diffusant sous forme de binge, c'est-à-dire de diffuser tous les épisodes en même temps. C'est sûr, moi, j'étais très content. Je les ai écoutés en dedans de peut-être presque la même journée ou la plupart une journée, puis le reste le lendemain en m'en allant au travail. Donc, j'ai trouvé ça le fun. Mais par contre, si il avait diffusé semaine après semaine en vraiment gardant le suspense, je pense que ça aurait créé un meilleur engouement. justement de la façon que ça a été traité avec Serial aux États-Unis ou avec Someone Knows Something à la CBC. Donc, écoutez ça, disparu avec Stéphane Berthomé. Sinon, étant donné que je suis un fan de photos, je me suis mis un peu à écouter un peu plus Objectif numérique avec Stéphane Vaillancourt, Christian Jarry et François Blanchette. C'est des gars qui sont devenus un peu plus ferrés en photo justement en faisant ce podcast-là. Ils n'étaient pas tous du même niveau au début, puis certains étaient un peu meilleurs, d'autres peut-être un petit peu moins ferrés, mais ils sont devenus vraiment, vraiment très pointus dans leur connaissance du milieu de la photo. Fait que ça, c'est le fun. C'est le fun d'avoir des gens qui sont alliés, comment je pourrais dire, alliés deux hobbies, deux passions, la photo, le podcasting, et développer leur talent autant en photo qu'en podcasting. Donc, je salue les gars d'Objectif numérique. Le quatrième, c'est Distorsion de Émile Gauthier et Sébastien Lévesque. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une révision des histoires et légendes urbaines qui circulent un peu partout sur le web. Donc, des choses qu'on a déjà vues, dont on a déjà entendu parler, on a déjà lu. Donc, ils creusent ça, puis c'est présenté d'une très belle façon. C'est très bien produit. Je vous dis, c'est très addictif. Donc, et si vous cherchez quoi écouter, puis vous n'avez pas envie d'écouter quelque chose qui est justement des nouvelles, de l'opinion, des trucs comme ça, ça vraiment, c'est fascinant. Puis ça nous garde vraiment sur un edge, je dirais. Un cinquième, mon carnet de Bruno Guglielminetti, je le sais, je l'ai mentionné l'année passée, mais pourquoi je le ramène cette année? Ben, c'est la participation de mon ami Jean-François Poulin, que je salue. Justement, je trouve qu'il fait une bonne job et encore meilleur job avec le temps qui passe. Jean-François et moi, on devait faire un projet ensemble de podcasting, puis justement, malheureusement, j'ai été pris par le travail, tout ça, puis c'est avec une grande tristesse que j'ai été obligé de délaisser ce projet-là. Et Jean-François s'est greffé avec à Bruno pour faire un segment qui était un peu le genre de choses qu'on voulait parler dans notre podcast, dans notre projet commun. Donc, je vous le conseille, allez écouter ça, Mon carnet avec Bruno Guglielminetti et Jean-François Poulin. Le sixième, c'est une découverte, OK? C'est vraiment une découverte qui est vraiment arrivée champ gauche. Je ne me rappelle même pas comment je l'ai trouvé, mais ça s'appelle Harry's Last Stand. Le gars s'appelle Harry Leslie Smith et c'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale de 94 ans. Il essaie de communiquer sur ce qu'il a vécu, évidemment, mais aussi sur les erreurs à ne pas refaire. Il trouve qu'en ce moment, les gens ont tendance à oublier ce qui s'est passé, oublier l'horreur, puis oublier aussi le contexte dans lequel ça s'est produit. Je trouve que il y a 10 ans, 15 ans, on avait encore de façon plus présente la Deuxième Guerre mondiale dans notre esprit. Et là, ça commence à s'estomper, les gens commencent à oublier, puis on est quand même à une période assez dangereuse. Puis c'est un peu ça que Harry nous parle. Il y a une façon de s'exprimer, évidemment, il y a 94 ans, le monsieur. Une façon de s'exprimer un peu difficile à comprendre parfois, surtout qu'il y a un très fort accent british. Moi, je le comprends quand même assez bien, mais il ne faut pas que je l'écoute dans l'auto parce qu'avec le bruit de l'auto, tout ça, puis sa voix qui n'est pas super forte, je préfère l'écouter avec mes écouteurs dans mes oreilles. Et puis, ben c'est tellement touchant. Hein? Un des plus vieux podcasters au monde, Harry Leslie Smith. Le septième, c'est Every Little Thing de Gimlet Media. C'est sûr, je parle souvent de Gimlet Media dans mon podcast. Évidemment, ils produisent de l'audio de très bonne qualité, fait que je peux pas passer totalement à côté. faut dire que ce podcast-là, c'est sa deuxième incarnation. Auparavant, ça s'appelait Surprisingly Awesome. Et puis, il y avait un format, il y avait une façon de présenter les choses. Quand il traitait du sujet, bon, c'est un peu comme un reportage. Ça n'a pas changé. C'est bien formaté, tout ça. Mais le reste du format, la façon qu'on amenait le sujet, qu'on en discutait après coup, c'était un peu redondant. Puis c'est ça qui ont changé dans la formule. Donc, c'est devenu « Every Little Thing ». Qu'est-ce qu'on fait? On analyse en détail un sujet qui semble des fois banal à première vue. Mais quand on y regarde de plus près, c'est un sujet absolument fascinant. C'est probablement mon émission préférée de Gimlet Media en ce moment. Le huitième, c'est quelque chose que vous irez peut-être probablement pas écouter. Je vous le conseille pareil. C'est un podcast qui existe depuis plus longtemps que mon podcast à moi. Ça s'appelle Chub Creek. Au début, il y était deux amis d'enfance qui s'étaient mis à faire ce projet-là. Deux amis d'enfance qui s'étaient perdus de vue, qui s'étaient retrouvés, qui sont devenus passionnés du podcasting. Ils se sont mis à faire un show ensemble. Au début, ils enregistraient ensemble. Ensuite, c'était chacun sa semaine, chacun de son côté. Donc, ça donnait vraiment un show dynamique. Puis, à un moment donné, Dave l'a repris tout seul. Donc, ça fait plusieurs années. Et il était, lui aussi, en pause. C'est aussi, entre autres, ce qui m'a inspiré à recommencer. Quand je l'ai vu repartir, puis le bonheur que j'ai eu quand j'ai vu l'épisode se downloader, j'ai fait « Wow! Il revient! Ça fait quoi? 2 ans? Je sais pas! » C'est le fun. C'est le fun de retrouver sa voix, son rythme, la proximité. Je l'ai déjà croisé très rapidement. On a déjà échangé des courriels par le passé aussi. Au départ, quand j'ai démarré ce show-là, ça a été une de mes inspirations au niveau podcasting. Donc, je vous le conseille, Chub Creek avec Dave. Le neuvième, ça s'appelle 20,000 Hertz. Qu'est-ce que c'est? Bien, on parle d'audio. Donc, si vous êtes passionné d'audio, ça vaut la peine. Puis même si vous n'êtes pas passionné d'audio, les sujets à propos de l'audio dont on traite là-dedans sont tellement fascinants que ça va plaire à tout le monde. De mémoire, ça dure quelque chose comme une vingtaine de minutes par épisode. C'est pas si long que ça. Ça s'écoute bien et on creuse vraiment un sujet au niveau de l'audio. Moi, c'est une de mes belles trouvailles de cette année, de l'année 2017. Sinon, en 10e position, il y a Revisionist History de Malcolm Gladwell. Si vous connaissez ou ne connaissez pas Malcolm Gladwell, c'est un auteur d'origine canadienne, c'est l'éditeur du New Yorker. C'est un conférencier qui fait 100 000 piastres par conférence. Fou de même. Oui, donc il fait beaucoup, beaucoup de sous. Et il y a une façon à lui de voir les choses, à mettre les événements en perspective. Puis, c'est ça, il revisite certaines choses au niveau historique. C'est fascinant, c'est bien raconté, c'est bien fait, c'est bien produit. Donc, je ne peux que vous le recommander. Suite à ces choses-là, à ces trouvailles-là, ces coups de cœur-là que j'ai au niveau podcasting, je vais poursuivre avec quoi déjà? Oui, les tendances podcasting de 2018. Donc, à chaque année, je vous dis un peu ce que j'entrevois au niveau du podcasting pour l'année suivante. Puis, l'année passée, j'avais enregistré mon podcast, je l'ai mis en ligne. Je ne l'ai pas publié dans mon fil RSS, mais il existe. Il existe. Puis, si vous allez écouter mes prédictions, vous allez voir que je n'étais pas trop dans les patates. Je me suis pas trop trompé, sauf qu'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait là. Il y a certaines prédictions que j'avais faites qui sont une wish list, des choses que j'espérais qu'ils se produisent, mais qui ne se sont pas totalement toutes produites, mais en tout cas, bref, je vous donne mes tendances pour 2018. Donc, les podcasts pour enfants, première position. Il y en a eu à une certaine époque, si on recule d'une dizaine d'années, hein, il y avait Disney, il y avait plein de gens qui produisaient des podcasts, mais c'était surtout des entreprises. Là, maintenant, ce qui arrive, c'est que il y a des un peu plus un retour aux podcasts indépendants, aux podcasts aussi commandités, où est-ce qu'on produit des émissions spécialement pour les enfants. Mon questionnement, c'est toujours, est-ce que ces enfants-là s'abonnent par eux-mêmes? La réponse est probablement pas. Et malgré qu'ils accrochent sûrement sur certaines émissions, je pense que la responsabilité de les abonner, de trouver du contenu, incombe aux parents et ça demande un certain effort. Le podcasting, s'abonner, c'est pas nécessairement facile. Il devrait y avoir quelque chose comme Netflix, justement, où est-ce qu'il y a une section pour enfants facile à configurer ou bien justement avoir des profils. Moi, ma fille est capable, là, elle a 3 ans et demi, est capable d'ouvrir l'iPad, de cliquer sur Netflix, cliquer sur son avatar à elle et se partir une émission. Là. Donc, ça prendrait ça pour le podcasting. En deuxième position, les regroupements de podcasters. Donc, j'avais effleuré le sujet l'année passée, mais là, ça s'en vient de plus en plus là. Donc, des maisons de production de podcasts, des regroupements de podcasters indépendants, des regroupements aussi de podcasters plus professionnels ou dans un but commercial. Donc, il y aura de plus en plus ça. C'est là, il y en a un peu. Il y a un peu ça au Québec, donc on s'associe, on forme des regroupements pour avoir une visibilité, une force de frappe, tout ça. Et ça, ça va ne faire qu'augmenter avec le temps, un peu comme des maisons de production. C'est pas une idée nouvelle, hein? Au début du podcasting, ça s'est fait énormément. Justement, mon ami Bob, au tout début, il avait démarré Rogic. Donc, c'était une association de podcasters. Il y avait, je pense, 6 ou 8 shows. Et le mot d'ordre, c'était la qualité. Donc, tu ne pouvais pas devenir membre. C'était sur invitation que tu devenais membre de Rogic. Et il fallait que ton show soit de bonne qualité. Donc, voilà. C'est pas une idée nouvelle, mais ça revient en force. Mon numéro 3, c'est les podcasts sponsorisés. Donc, du contenu produit avec de l'argent en arrière. Donc, des entreprises qui mettent de l'argent pour produire des contenus sous forme de podcast. Ou est-ce que c'est plus ou moins bien identifié que c'est sponsorisé? Il y a Gimlet Media qui produit des shows pour les autres. Je pense entre autres à un show qu'ils font pour eBay. Eux, c'est clair. C'est clair que c'est eBay qui est derrière ça. C'est clair que c'est eux qui produisent ça. Mais dans certains cas, c'est pas toujours clair. La ligne est pas toujours claire. Et ça, on va en voir apparaître de plus en plus. Mon numéro 4, ben, j'en parle souvent autour de moi, puis je l'ai mentionné tantôt, c'est la multiplication des plateformes. Donc, oui, c'est sûr... Auparavant, c'était le iPod, c'était iTunes qui était roi et maître du podcasting. Là, maintenant, il y a de plus en plus de façons d'acquérir ce contenu-là. Évidemment, il y a les téléphones Android, mais il n'y a pas juste ça. Il y a le fait que iTunes n'est plus le seul podcatcher et il est toujours dominant, mais perd des plumes petit à petit. Donc, il y a les podcatchers qui se multiplient, donc qui se fragmentent parce que à chaque fois qu'on veut que notre contenu soit dans une application, ben, faut aller le soumettre, faut aller le mettre à cet endroit-là. Mais il y a aussi les différentes plateformes. Je parlais de Radio-Canada tantôt. De plus en plus d'entreprises, de plus en plus de compagnies de médias font leur propre plateforme où est-ce qu'ils servent du mécanisme de distribution du podcast, mais bâtissent leur plateforme et là, ça va simplement morceler. On cherche à garder prisonnier tout le temps l'auditeur. Puis c'est pas vrai, il faut le laisser libre l'auditeur si on veut qu'il découvre autre chose, puis qu'il revienne à nous aussi, puis qu'il demeure abonné. Oui, la multiplication des plateformes, c'est le fun, mais c'est aussi un petit problème dans un certain sens. Une cinquième tendance, c'est l'accès à des métriques de plus en plus fiables, donc des données de plus en plus fiables sur les téléchargements, mais non seulement ça, sur les habitudes d'écoute. Hein. Auparavant, je le disais, iTunes était très opaque concernant ces données. Commence à ouvrir ça un peu pour les podcasters. Mais il y a aussi le fait que certaines compagnies ou certaines plateformes développent des outils pour qu'on puisse savoir précisément les auditeurs, ils ont commencé à écouter quand, ils ont arrêté quand, leurs habitudes aussi dans le temps, quand est-ce qu'on commence, quelle journée qu'ils ont commencé à l'écouter, est-ce qu'ils ont terminé la même journée ou ils l'ont terminé plus tard ou ils l'ont juste abandonné. Donc ça, c'est surtout les compagnies d'hébergement. Donc généralement, pour réussir à avoir des métriques aussi précises, ça prend une des deux choses, c'est soit l'hébergement des fichiers audio à quelque part pour qu'on sache quand ils ont été sollicités, ou sinon, ben, ça prend justement un podcatcher ou une plateforme qui nous permet d'analyser quand les gens font jouer l'émission, l'arrêtent, s'ils sautent des bouts, tout ça. Donc, tout ça est possible. Moi, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que j'ai un projet en ce sens-là. Je suis content de voir qu'il y en a qui commencent à embarquer et tout le monde va bénéficier d'avoir justement des chiffres plus fiables. Ça va permettre de mieux vendre la pub, etc. Donc, c'est une bonne chose. En numéro 7, ben, c'est en lien avec le numéro 6, donc l'explosion des services pour les podcasters et pour les podcasts. Donc, des services qui sont parallèles à l'hébergement. Donc, l'hébergement, c'est un service. Donc, je l'ai dit, des services de métrique, des services de transcription automatisée, des services aussi de normalisation des fichiers audio. Il y a vraiment plusieurs services qui se développent parallèlement, justement, à l'hébergement, parallèlement à la production de podcasts. Et, on peut tous en bénéficier. Numéro 8, j'ai justement dit que c'était un problème tantôt, le fait qu'on mette en ligne tous les épisodes d'un podcast en même temps, mais d'un autre côté, c'est une tendance lourde à la Netflix. Moi, je pense qu'une des forces du podcasting, c'est justement le fait qu'il y a des épisodes et qu'on garde le suspense et qu'on a hâte au prochain. Le podcasting, c'est pas Netflix, c'est pas... Je pense qu'on peut le faire si on a un certain type de contenu. Si justement on fait une série de fiction en audio, oui, là je pense que c'est probablement une bonne idée. Mais sinon, si on veut garder l'attention, si on veut créer de l'engouement, je pense que le fait de livrer épisode par épisode au fil du temps, ça demeure une force du podcasting, selon moi, et ça va continuer à être une belle tendance. Hey, je pense que j'ai terminé. Hein, ça n'a pas fait mal. Ça fait presque une heure que je vous cause dans le micro. Je vais terminer avec un questionnement, puis vous m'enverrez un courriel ou un message sur Facebook ou sur Twitter. Hein? Mon nom, c'est Sylvain Grandmaison et je suis disponible partout. Mon adresse courriel, québecbalado@gmail.com. Ma question est la suivante. Si je démarre un Patreon, justement une page où est-ce que vous pouvez contribuer tant par mois, 2$, mettons, pour m'inciter à produire plus de podcasts, est-ce que vous le feriez? Est-ce que je pourrais commencer moi aussi à faire de l'argent avec le podcasting officiellement? Autre qu'avec mon contenu, j'ai jamais sollicité personne pour payer pour mon contenu. J'ai jamais eu de publicité à l'intérieur de mon podcast. Tout ça a été gratuit. 87 belles heures, 87 beaux épisodes. Est-ce que vous seriez prêt à fournir quelques sous par mois? Envoyez-moi un commentaire, québecbalado@commercial.gmail.com, et aussi, allez dans votre lecteur de podcast préféré, cherchez pour Québec Balado, allez ajouter des petites étoiles, des commentaires, des recommandations, s'il vous plaît, c'est mon salaire, vu que je ne suis pas payé pour ça. Donc, je vous dis à très bientôt, et je vais vous laisser avec une dernière chanson qui s'appelle « Won't See Me Crying » de, comment il s'appelle le gars? Mark Bodino. Je vous laisse avec Mark Bodino et je vous reparle très bientôt, je vous garantis, il y aura plus qu'un épisode cette année du Québec en balado-diffusion. Ciao!
Voices in the atmosphere sing along endlessly, drowning out the motor cars. We look up to pick a star. Now the only thing that's left are spaces put there to forget. And I'm just too numb to feel the bodies on the battlefield. You won't see me crying. And if you peer into my head, darkness in the cold wet cave, crowding echoed voices call. You won't see through the wall. Prop scenes and movie queens, waking to your coding dream. Door to door you ask for more, peering through the golden scene. Now the only thing that's left are spaces put there to forget, hiding any way to feel the bodies on the battlefield. Time moves slow when you're feeling low. We can go where no one knows. Away, blowing ashes on the day. Heart you carry on your own, wandering to find a home. Waking into waters gleaming, realize that I was dreaming. Always from the outside seeing, everything around me speeding. You won't see me crying. And if you peer into my head, darkness in the cold wet cave, crowding echoed voices call. You won't see through the wall. Time moves slow when you're feeling low. We can go where no one knows. No, you you won't.